Rock psychédélique à l'usage de ma fille. Une émission présentée par Will Z.
Nous sommes au bout du chemin. Rock psychédélique durant ces 3 années, c'était plus de 25 invités et invitées. C'était aussi des thèmes et des valeurs qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de transmettre à mes enfants, Camille et Louis. Pour cette dernière émission, j'ai envie de me replonger dans ce qui a été le début de Rock psychédélique. Pas le pilote diffusé lors de la semaine belge en 2018. Vous vous souvenez de ça ?
T'enregistres là ?
Oui, c'est parti. On ferait pas un genre de présentation, genre comme si c'était le début, tu vois.
Ah oui, quoi, alors on fait quoi? On fait la partie trash de l'émission.
Dépêche-toi,
avec Marie.
Très peu de bière.
Ouais, non, mais ça refile.
Bon, on fait quoi? Pipi?
Caca? Ah, ça, c'est un bon début.
Ouais, ça commence bien.
Voilà.
Et on se touche trop la nouille pour le moment, il est
temps. Eh oui, vous êtes sur le rectangle.
En 2016, mon pote Hugues de Castillo avait organisé une soirée ciné-concert au Vector en compagnie de Colin Van Eckhout du groupe Amenra. Et de Marie XXMe, photographe et réalisatrice talentueuse derrière le film Backstage, pour lequel elle avait suivi des dizaines de groupes, recueillant leurs confidences sur ce qu'était alors la vie en tournée.
On commence comme ça,
sur... émission spéciale Belgique.
Ouais, ouais.
C'est
sur la scène belge. La scène belge.
C'est pas que la Belgique.
C'est une... Sur la Belgique, la scène belge. Voilà. Voilà, on essaye de faire en tout cas un projet qui
tienne la route.
Non.
Non, juste qui réunit deux animateurs de rectangle, c'est juste ça, le postulat
de base. En roue libre.
En roue libre, je suis le radar du hobby de Will, et donc après, voilà, nous sommes au Vecteur à Charleroi, après une présentation du DVD Backstage de Marie XXMe.
Ah oui, comment est-ce qu'on dit XXMe, donc?
Ouais, c'est comme ça que je le dis. Okay. Non, mais il y a des restos, ça se dit pas.
Ça se lit, mais ça ne se dit pas.
Projection de ton documentaire et puis concert de CHVE, alias Colin Van Eckhout, comme on dit simplement, le leader d'Amenra.
Je n'ai pas de questions.
Au revoir.
Ceci clôt cette ce Liberation Frequency.
T'imagines, on voit une émission de 5 minutes.
Allez,
là.
Merci, votre
émission. Ça serait bon. Je mets le podcast.
Parce que si vous avez tout ça, j'ai
le mec, écoute, il y a 2 minutes.
Ouais, ça va, c'est...
Je mets un jingle quand même.
Ouais, c'est ça.
Rock psychédélique à l'usage de ma fille. Nous voici arrivés.
Nous sommes en 2016 et je suis en plein doute. Ma vision est alors obscurcie par les galères de la musique, le sentiment de manquer des moments importants avec ma famille et la culpabilité de laisser ma compagne s'occuper de tout pendant mon absence lorsque je suis en concert quelque part. C'est dans cet état d'esprit que je rencontre Colin et Marie aux côtés de Hugues.
C'est démotivant. On a fait une tournée en Allemagne, quoi. C'était des conditions vraiment super extrêmes. Quoi.
Ouais.
On a dormi sur un matelas avec de la pisse de chat et des trucs
Tu on l'a fait aussi.
On a la Chemnitz, là c'était super extrême aussi.
We had our fair share of the
des
matelas avec des pousses et tout.
Ouais, c'est ça quoi.
Ouais, il y a quelque chose qu'il faut. Ça c'est quelque chose que tu dois passer dans cette période.
Ouais.
Et quand tu as 35 ans, tu ne peux plus dormir dans un matelas qui pue la pisse quoi. Quand t'as 21 ans, t'es content, t'es plus...
Bah, tu vois, par exemple, on a fait cette date-là, et le lendemain, on avait l'hôtel payé, donc se plaindre non plus, quoi.
Ouais, okay,
Mais c'est dur, quoi, sur la
route. C'est dur.
C'est une vie qui est difficile.
Honnêtement, si tout finit maintenant avec des groupes où il y a quelque chose qui se passe et je dois commencer de nouveau, je ne sais pas si j'aurai l'énergie de faire ça non plus. Je comprends complètement. Ou sinon, il faut prendre les trucs qui sont...
Ouais, mais c'est ce que je me dis, quoi. Si j'ai des propositions, pourquoi pas, mais...
On peut faire tout. Bah, nous aussi, hein. Je veux dire, quand on a une tournée ou quand on a quelque chose et qu'on a une date qui est mal réglée, on en suit, hein, on doit aussi encore dormir dans je sais pas quoi. Mais on se dit toujours, si on a deux tournées comme ça, à côté de chacun, probablement que le groupe s'arrête, quoi. Mmh. Parce que c'est démotivant.
Ouais. Ça te prend une énergie aussi.
Ça te prend, c'est étrange, ouais. Plus qu'il y a 10 ans, ouais. Quelque chose comme ça.
Alors, tu vois, je préfère être chez moi, composer des morceaux, calapé, aller au studio, rencontrer des gens, jouer avec plein de gens. Je trouve ça plus cool que de taper la route.
C'est aussi le signe de notre temps, un peu, que tu. Ouais. T'as plus le temps pour t'as plus l'énergie, le temps pour des trucs comme ça, quoi.
Ouais.
Tu y vas, qualité ou ce que tu veux, time is more precious. Mm-hmm. Ça apparaît d'être comme ça quand t'es 35 ans.
Ouais. Ouais. Moi, je connais des gens, ils vont aller jouer au Austin Psych Fest. Mais par exemple, ils ont tout à leurs frais, quoi. Ils doivent payer leur billet d'avion.
Ah ouais, mais ça c'est non, qu'on n'est pas, qu'on va plus aux États-Unis, nous on se dit.
Voilà, moi j'accepterai jamais de faire ça, quoi. Je m'en fous, je préfère rester chez
moi. La réponse depuis 10 ans chez nous, c'est When are you going to play in the States? On dit jamais, si tu veux nous voir, il faut venir ici. Voilà, c'est moins cher pour nous. Sinon, on a tout le bazar. Nous, on doit encore avoir des work visas, ce qui est con aussi. Truc comme ça, pour jouer dans un espèce de café pour 10 personnes qui ne sont pas intéressées. Mais on se dit, hop, on s'en fout, man. Fuck it.
Ouais, ouais.
C'est con, on l'a eu, hein.
Mais je crois que quand t'es plus jeune, tu
c'est chouette, et ça, c'était cool, peut-être, hein,
que tu vois, peut-être que c'est des gens qui seraient allés au festival, qui auraient payé leur place. Et donc, du coup, ils disent, bah voilà, on va y jouer, on va traîner en backstage, on va rencontrer Brian Wilson, on serait bien contents.
C'est ça.
Mais je sais pas, moi, c'est pas trop ma démarche, quoi.
Et on a encore de la chance, hein. Je veux dire, quand t'es dans une scène underground, t'as beaucoup plus de loyauté, t'as beaucoup plus de backup que quand t'es dans le mainstream. Faut même pas penser d'aller là-bas.
Ils achètent encore des
vinyles. Ouais, c'est vrai.
Ça, c'est une chance,
mais faut quand même faire de l'effort. Je trouve, c'est un peu. Je suis un peu déçu dans les labels these days, surtout les labels internationaux. Ils ne veulent plus faire de l'effort. Première question, c'est est-ce que tu peux faire un layout où le cost est moins de $1? Mm. Oui, on peut faire ça, mais ça va avoir l'air d'une
cheap
toilet paper, tu sais. Et ils aident à diminuer la valeur de trucs comme ça. Mais quand tu fais de la musique, qui est de l'art sur soi-même, et quand tu fais un layout, tu fais quelque chose qui est aussi a l'air d'avoir une pièce d'art, ouais, les gens, ça faut quand même de la valeur. You add value to tout ce que tu crées, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est étrange. Je deviens vieux, moi. Ouais.
Il y a 10 ans, mon canapé était my worst enemy. Mais maintenant, c'est mon plus grand ami, mon canapé. Ouais, c'est vrai. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ça, c'est aussi quelque chose d'étrange avec les groupes. Pour gagner de l'argent avec de la musique, il faut tourner, il ne faut pas être à la maison. Ça, c'est étrange. Ouais. Quand tu as des enfants, chez nous, ça, c'est aussi un problème. On n'aime pas aller. On aime rester à la maison maintenant.
Ouais.
Dès qu'on n'avait pas d'enfants, on s'en foutait. On voulait voir le monde et faire des tournées, faire des shows. Mais on n'avait pas de shows. Et maintenant, on pourrait tourner tout le temps, mais on ne veut pas tourner tout le temps. Ouais.
C'est toujours comme ça dans la vie. Quand tu attends pas un truc, vrai, ça arrive. Et quand tu veux absolument quelque chose, tu n'y arrives pas.
On l'a déjà dit milliers de fois. Quand on se jette dans la camionnette, paf, tout le monde arrive. On t'a soufflé, on t'a dit, bon, merde, je dois encore faire ça et ça, et blablabla, et à la maison, blablabla. Et on se dit toujours, imagine qu'on était en ce niveau-là, quand on était 25 ou je sais pas quoi. Ça serait fou, quoi.
Est-ce que tu aurais pu construire une vie de famille si tu avais eu ce niveau-là?
Ouais, je sais pas.
Ça aurait peut-être été une vie tout à fait différente.
Probablement. Mm-hmm. Ouais, c'est étrange, la vie, hein. Mais on peut déjà être heureux, hein, de ce qu'on a maintenant. Mm-hmm. On peut dire. C'est pas encore fini. Ça nous étonne de temps en temps de voir et de dire qu'on est encore en train de On a encore de la marge, c'est pas encore comme ça. Ouais. Il faut avoir le temps pour ça. Des fois, je suis heureux quand que c'est, tout est allé très lentement pour nous. Il y a des groupes comme en Belgique qui explosent comme ça, paf, directement au niveau, à fond, premier album quoi. Et après ça,
ouais, c'est dur, ouais.
Moi j'aimerais voir le sixième album du groupe là. Ouais. Hein. Ouais, des fois, ça, je suis content que c'est comme ça et c'est pas. On n'a pas de la chance qu'on gagne un concours ou je sais pas quoi. Ou, ouais.
C'est étrange. Comme moi, mon truc solo, ouais, c'était mon beau-père qui était malade. Mais ça, c'est tellement sur moi-même que je ne vais pas tirer les autres dans cette histoire. Mm. Mais je veux dire, chaque album qu'on a avec Amanra, je peux dire qu'est-ce ce que tout le monde avait dans cette période-là.
Ça veut dire que vous ne serez jamais heureux?
Moi, je dis toujours à tous les gens qui me demandent comment ça va, je dis toujours que je suis en train de vivre les meilleures années de ma vie pour le moment. Ça, c'est vrai. Tout le monde est... La plupart des gens autour de moi sont en bonne santé. Tout le monde a l'air d'être heureux ou assez heureux. Je dirais, ça va pas aller mieux que ça pour le moment. J'ai du succès avec mes groupes et tout, et je suis populaire et tout ce que je fais, beaucoup de gens l'aiment et tout. J'ai du travail, j'ai assez de l'argent pour vivre. Ça va. Je veux dire, c'est la meilleure année de ma vie que je vis alors. Mais je ne vais jamais être heureux. Je pense que nous tous, on a une espèce de tristesse en nous qui veille sur nous tout le temps. Je veux dire, même maintenant, les derniers jours, comme je dis, je vis les années les plus beaux de ma vie pour le moment, mais des fois, ça t'arrive, c'est comme un nuage noir qui se met autour de ta tête et tu te perds dedans et tu ne vois pas vraiment le truc. Ouais. Alors, on est heureux. Oui, on est heureux, mais on doit faire gaffe. Et ça ce qui nous... what links us in the band.
Ça nous relie, ouais.
Ouais. Et quand il y a quelques-uns de nous qui sortent dans le truc, c'est là qu'on se jette dans notre boîte à répète et qu'on ne sort plus. Et quand tout va bien, ou la plupart va bien, bon, on va répéter, mais on parle et on fait le con ensemble, mais on ne répète pas. Ouais. On joue du stoner toute la soirée, ouais, on va à la maison, on a eu de la fun, mais on sait qu'on n'a rien construit pour en mettre. Ouais, non, c'est un truc comme ça. Ouais. Mais tu as aussi dans n'importe quel genre de musique que tu joues, quand tu fais quelque chose qui vient du cœur, beaucoup de gens, et tu le sens directement, beaucoup de gens s'en foutent quel genre que tu fais, même si tu fais du techno, mais tu sens qu'il y a beaucoup de poids dans le truc. Tu l'apprécies. Moi, je suis comme ça, je veux dire. Moi, ça, je m'en fous ce que tu joues quand ça vient du cœur et quand ça me prend par la gorge. Je suis fan, quoi. Et je vois aussi, dans tous les trucs que j'aime, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas quel ampli qu'il utilise, je sais pas quoi, ou le son de la guitare, je m'en fous, moi. C'est ce qu'ils font avec qui m'intéresse. Je m'en fous de la qualité des enregistrements ou de sur quel label quelqu'un ou qui connaît, je m'en fous. Mais comme je dis, il ne faut pas ignorer que nous, on part d'une situation confortable, que c'est qu'on a travaillé, on a bossé dur pour 15 ans de nos groupes, on a un nom, ça ouvre des portes à fond. Ou sinon, tu restes dans des super petites niches scene et tu joues toujours pour les mêmes 20 personnes, par exemple. Mais c'est ce qu'on faisait aussi, hein, il y a 5 ans.
C'est pas un peu lié à la Belgique, puisqu'on est justement dans une émission un peu sur la scène belge. Est-ce que t'as pas l'impression, comme c'est un petit pays, en tout cas, moi j'ai parfois cette impression-là, parce que tu vois toujours les 20, 30, 40, 50, 100 personnes même au concert.
Ouais, ouais.
Et c'est difficile d'aller plus loin ici en Belgique.
Ouais, ça pourrait, ça. Ouais. Nous, on, quand on était 18 ans, je sais pas quoi, on allait voir des shows à Cologne ou je sais pas quoi. C'était vraiment un groupe qui nous plaisait.
Mais on conduisait longtemps aussi pour voir. Et ça, c'est ce qu'on voit aussi avec caméra, qu'il y a des gens qui arrivent vraiment de loin, ou des fois ça nous bouscule. Il y a des gens de Russie qui viennent nous regarder en Finlande ou je sais pas quoi. Et c'est fou ça, c'est très chaleureux, c'est cool, ça fait beaucoup pour voir qu'il y a des gens qui font encore des sacrifices comme ça. Mais il y en a moins que ouais. Je ne sais pas si c'est typiquement Belgique, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a une scène petite, mais je suis sûr que le scene heavy music est petit partout. Et je pense que comme en Allemagne, ça vit beaucoup, ouais, mais les gens de Berlin ne vont pas nécessairement aller à Leipzig et autre part, mais c'est aussi seulement 2 heures de route. Ça dépend combien de shows que tu as dans ton ville. Hein. Ouais. C'était presque sûr que les groupes vont passer un jour ou l'autre. Là, t'attends. Hein. Je sais pas, c'est difficile, on peut pas expliquer, je pense. Mais le truc, ce qui est fou, que les lois et tout ne le rend pas facile pour les petits trucs comme des cafés et tout, pour accueillir des gens. Surtout pour une musique lourde, une musique style lourd, quoi. Moi, j'ai de la chance que je vais à l'envers. J'ai mon nom, je commence avec mon nom.
Ouais.
Et quand tu commences sans le nom et juste avec le talent, ça c'est difficile. Mm-hmm. C'est difficile. Tu peux avoir tellement de talent que tu veux. Des fois, c'est mieux d'avoir le marketing là qu'avoir du talent. Non, c'est étrange.
Mais donc, tu n'aurais peut-être pas pu faire ce projet-ci au début de ta carrière.
Non. Heureusement qu'on a commencé il y a 15 ans.
Oui, mais c'est triste de se dire qu'un groupe aujourd'hui ne parviendra pas.
Il faut avoir de l'aide. Faut avoir de l'aide.
Et l'aide n'est pas vers cette culture-là, malheureusement.
Non. Il faut avoir un groupe plus grand qui te prend avec.
Vu que ce n'est pas l'interview la plus longue de l'histoire de l'humanité.
Oui, c'est clairement.
On est juste en train de bavarder. C'est pas vraiment.
Et c'est moi qui fais le montage, t'imagines. Je lui vois là.
On a déjà eu une interview assez sérieuse avec Lynn, justement, par rapport à la scène belge.
En début de soirée, oui.
Donc voilà, il y a des duvels et de la chouffe qui sont passés par là.
Moi, je suis la vedette.
C'est quoi la question ?
Est-ce qu'il y a une question à un moment donné ?
Parce que là, on n'a pas encore posé une seule question.
Mais
en fait.
C'est ça le problème. Mais on a déjà 8 minutes de rush.
Est-ce qu'on n'a pas fait tout ? Non, après-demain.
Que se passe-t-il ?
Je croquerai.
Tu vas croquer le demain. Non, je vais à Bruxelles demain.
Tu vas juste boire des bières.
Je vais boire des bières à Bruxelles demain. Ok.
Elle va faire le défilé de la zombie barrette.
Oui, il paraît qu'il y a ça, oui. Je sais pas ce qu'on va faire demain.
Boire des bières.
Oui, boire des bières.
Ça, je laisse, c'est au montage. C'est une séquence là qui se passe.
Mais qui est très typique, hein, à mon avis.
Ouais, tu crois ?
Carolo.
Ouais.
Backstage, c'était pas mal.
C'était mieux. Peux faire le micro-trottoir ?
Non, c'était très très bien. Et je pense que je vais aller voir la fin parce que je me suis endormi.
Avec les vraies couleurs, parce que là, les couleurs étaient vraiment chier.
C'est toi qui as fait ça ?
Ouais.
Ah ouais. C'est toi qui as dit au moment où le mec il a fait tomber le cochon, je sais pas quoi, genre ouais, c'est génial, on le garde.
Il n'y a pas ça sur le soir, quoi. C'est ça.
Elle ne connaît pas
cochon,
son film.
Il le fait pas tomber. Le cochon, il le fait pas tomber.
C'était juste avant la scène du cochon.
Non,
et
c'est
le mec qui tape dans le micro.
Oui,
je sais
c'est
pas
ça.
Ce qui se passe.
Non, tu m'entends. J'ai pas dit c'est génial, on garde. J'ai juste dit tu veux pas la refaire. Non, je on la refait pas. En fait, on va la garder.
Voilà,
bah
c'est
bien
ça. Elle était très bien. Et il y a plein de moments dans le film comme ça.
Oui, je les ai gardés exprès.
En tout cas, l'avion passe ou le char.
Excuse-moi, mais tu n'as pas envie d'être animateur sur Radio Rectangle parce que tu es rien de nous.
Il y a plein, allez, en
animateur
plus,
de rue, moi.
Allez, moi, il y a plein de groupes qui sont mes héros, le Neurosis, quoi. Moi, c'est parmi mes héros, machin. Et le voir parler comme ça de son truc, quoi, c'était juste formidable, quoi.
C'est bien. J'ai essayé de les garder le plus vrai possible, quoi.
Bah ouais, mais c'est. Enfin voilà, parce qu'il n'y a rien à faire, quoi. Tu vois, t'as toujours ce qui
quitte à avoir des problèmes de son ou des conneries,
ouais,
je veux dire,
mais
vraiment
ça,
genre,
on s'en fout, c'est le fond qui compte dans ce truc-là, quoi, tu vois.
Et moi, si je peux te dire, mon père, il est protestant. 6000%, tu vois, et on s'aime profondément, mais on est un peu différent. Et j'essaye, moi, de lui expliquer qui je suis, qu'il faut pas stresser. Et lui, il essaye de me dire, mais si, regarde ça, t'as vu Jésus, blablabla. Et je lui dis, ouais, mais c'est pas pour moi, ça, c'est pas mon monde. Et là, j'ai acheté le DVD, j'ai envie
de lui montrer, genre, ça, c'est mon monde.
Je vais écrire ceci et ma famille, t'as vu, on est positif aussi.
Parce que c'est ça, tu vois, ils ont beau prendre de la drogue et faire plein de conneries, dire c'est des gens
j'ai
vrais.
Des,
c'est,
j'ai des potes qui m'ont dit ça aussi et j'y ai pensé par, même par rapport à mes parents, mais c'est même pas la peine.
Mais si, moi mon, bah non, mon père, il, mon père il va comprendre, pas. C'est un vrai homme.
J'ai une copine, une copine qui bosse dans la musique aussi, il me fait ah, je vais montrer ton DVD à ma mère parce qu'elle va comprendre qui je suis vraiment. J'ai... Non, c'est comme si moi je le montrais à mes parents, ils comprendront jamais. Ils vont même pas aller. En plus, ça dure deux heures, c'est genre.
Mais j'en parlais, je sais pas avec.
Ils vont faire comme toi, ils vont dormir.
Si mon père comprend qui je suis grâce à ton DVD, je t'enverrai un mail.
Ah ouais, je veux bien.
Mais je suis pas sûr. Parce que moi, j'ai ma mère.
Si, hey, tu sous-estimes mon père là. Mais c'est un mec bien. Hein.
Non, mais si t'y arrives, c'est bien. Parce que moi, ma mère, je lui montre ça, ma mère, elle fait un arrêt cardiaque quoi.
Mais ma mère,
c'est le prototype de la maman sicilienne, ma mère. Et donc, c'est ce genre de truc, elle est. Elle ne peut même pas imaginer pouvoir comprendre. Donc, lui dire, il faut que tu comprennes, c'est juste pas possible, quoi, ouais. Tu vois. C'est,
mais non, mais ça a des tellement.
Autre, ah, bah oui, oui, vie, c'est complètement façon, ailleurs. Quoi, tu vois, c'est complètement ailleurs, quoi. Mais voilà.
Ça serait bien qu'il comprenne, mais.
Ouais. Mon père, ouais, lui, y a pas de souci. Lui, mon père, lui. Mais. Mon père, c'est tant que tu fais mal à personne, vas-y, fais ce que tu as à
personne
faire.
Personne ne fait mal à
voilà.
Personne.
Bah non, ouais, voilà. Mais ma mère ne comprend pas les choses comme ça, voilà. Sicilienne, tu vois, maman sicilienne, tu vois, voilà, c'est ça. Bah ouais. Bah merci pour le film, en tout cas.
Rien.
Merci pour votre intervention sur Radio Rectangle.
Ah si, enregistre. Ah ouais,
non, mais je sais pas ce qu'il va faire avec
ça. Ah, mais ça va, ça va.
Toutes nos conneries, ah,
mais ça va, c'est pas qui on est.
Je sais pas qui va écouter. Bonne soirée.
Rétrospectivement, cette émission aura sans doute été le déclencheur de cette série rock psychédélique, me poussant à aller à la rencontre d'invités, me permettant de faire évoluer mon point de vue et ne pas rester sur mes fausses certitudes. Alors voilà, cette émission ne représente plus qui nous sommes aujourd'hui, mais qui nous avons été, ce que nous avons pensé et comment nous avons vibré. Aujourd'hui, j'ai un anniversaire à fêter, avec ceux que j'aime. Aujourd'hui, Louis a 7 ans. Le temps passe. Sans regret, et nous sommes heureux, ici et maintenant. Je vous laisse, mais j'ai l'intuition qu'on se recroisera encore.
Allez, la fin, anniversaire! Il n'y a pas de bougie, mais c'est comme ça.
Pas qu'on ne souffle pas.
Ah non, c'est comique.
On ne souffle pas, en vrai.
Ah,
j'attends.
Bravo, Louis.
Bravo.
Ouais,
bravo.
Alors, Louis, un petit mot pour tes 7 ans?
C'est bien, 7 ans, c'est l'âge
raison. Ouais.
Il paraît que c'est l'âge de raison.
Ouais. Moi, ça voulait le mot.
Donc, tu viens d'acquérir l'âge de raison. C'est bien, ça.
Un nouveau début, Louis.
Oui, un nouveau début.
Ah, ils ont un nouveau début.
Un nouveau départ, 7 ans.
Pourquoi?
C'est comme ça.
Donc, tu peux devenir raisonnable. Voilà. Quelqu'un qui a l'âge de raison devient raisonnable. Et qu'est-ce que le raisonnement? C'est.
Moi, je
veux
ça.
Bon.
Donc, ça et ça, voilà. Donc, ça, c'est moi qui ai tout ça.
Ça m'intéresse pas, viens-moi et du chocolat.
Ah,
ça
oui.
Va m'intéresser.
Alors,
je prends la palette.
Oui. Alors, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5.
Donne-moi la tête de chocolat.
Qu'est-ce que tu fais?
J'ai plus la lettre.
Psychédélique à l'usage de ma fille. Au revoir. Au revoir.
Voilà, c'est bon.
Ça va?